Bonjour à tous, c'est une joie d'être parmi vous ce matin, si nombreux. Hein? Faire le bien et bien le faire. Alors, c'est la continuité, hein, qu'on sauver pour servir, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais lire le texte de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre les méchancetés, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je vais arrêter là la lecture parce que c'est un peu long. Tout un programme. Faire le bien et bien le faire. Dans un monde marqué par le mal et le refus de Dieu, mais aussi face à la détresse dans laquelle le monde se trouve. Détresse, mais aussi souffrance et pauvreté. Même si les textes que nous avons lus tout à l'heure n'impliquent pas que l'action sociale, elle fait partie de notre programme. Dieu nous appelle à faire le bien. Beaucoup d'ONG agissent avec sérieux et efficacité pour faire reculer la pauvreté. Et ils le font souvent très bien. Pierre s'adresse à ceux qui sont dans la dispersion et choisis par Dieu. C'est la situation des chrétiens. Il nous dit dans ce texte que nous sommes étrangers, voyageurs, mais choisis par Dieu. Même si les chrétiens sont en attente de la cité permanente dans les cieux, il est quand même citoyen dans le pays où il habite. À moins d'être comme un escargot, de transporter sa maison sur le dos, on est obligé de s'installer quelque part et d'être... Même Abraham, quand il a dû enterrer sa femme, il a été chez les Hittites et il a acheté un bout de terrain. Il est devenu propriétaire pour pouvoir enterrer sa femme dignement. Durant la période où Israël était en Égypte, pendant ces longues années dans le désert, il était en attente de la terre promise. Ils étaient en route. Mais ce n'est pas pour cela. Même s'ils étaient dans le plan de Dieu, ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas eu du mal. Le chrétien, lui, est également voyageur. On est en route vers cette terre promise. Lors de l'exil à Babylone, le peuple de Dieu se retrouve loin de son pays et mêlé à un peuple païen. Mais le peuple, dans Jérémie au chapitre 29, nous lisons ceci. Il pouvait être en révolte, hein, d'être en esclavage, en pays conquis, il était soumis à l'autorité. Nous lisons ceci. Jérémie leur donne ce conseil, même en captivité. Jérémie chapitre 29. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Imaginez qu'il fallait que les, même en captivité, ils devaient s'évertuer à rechercher le bonheur de ceux qui les avaient tenus en captivité. C'est un peu cela, hein, que nos ancêtres, les anabaptistes, ont mis en pratique. Ils n'avaient pas le droit d'acheter des terres. Mais leurs compétences et leur savoir-faire étaient légendaires. Dans le journal de Christophe, je ne sais pas si vous l'avez lu, du mois de mai, on peut lire ceci. L'administration royale de 1648 tolère assez bien ces réfugiés illégaux, hein, en plus ils étaient dans l'illégalité, venus de Suisse pour échapper à la persécution. Partout, leurs compétences professionnelles et leurs contributions économiques indéniables jouent en leur faveur. Quel beau témoignage, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre, au verset 1, précise: nous sommes choisis, élus, selon la préscience de Dieu. Et si nous avons été choisis, ce n'est pas simplement choisi comme ça, c'est, on avait quand même quelque chose à faire. Et accepter que Christ était mort pour nous, à notre place, le châtiment que nous méritions est retombé sur lui. Et ainsi nous recevons le pardon de nos péchés, nous obéissons à Dieu en faisant le bien. Et en retour, nous devons le faire bien. C'est la double caractéristique de la Nouvelle Alliance. Dans Hébreux 10, verset 16, je mettrai une loi nouvelle dans leur cœur. Si nous sommes invités à faire le bien, c'est sur la base du pardon de nos péchés et du renouvellement de notre intérieur. Ça ne vient pas d'automatique. On a besoin de le faire par reconnaissance et non pas pour avoir le salut, hein, pour mériter le salut. Les œuvres que nous faisons, c'est en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Un proverbe chinois dit ceci: c'est par le bien faire que se crée le bien-être. On va philosopher, hein, je ne vais pas vous expliquer. Mais on peut comprendre, hein, oui, il y a pas une satisfaction de soi, hein, à faire le bien. Et quand on sait que ça fait plaisir, on sait qu'on procure du plaisir, et bien ça nous fait plaisir aussi. Mais il n'y a pas de raison. On pourrait se poser la question: est-ce que nous nous considérons comme étrangers, voyageurs? Est-ce que le chrétien du 21e siècle ne se trouve pas parfois un peu trop à l'aise ou installé, comme s'il était déjà arrivé à destination? Lorsque nous sommes rentrés définitivement du Tchad, nous venions de nous installer à l'IBE, à l'Institut biblique de la Morlaix. Et à ce temps-là, j'ai assisté à une conférence à Montbéliard où c'était le thème, c'était « Toi, lève-toi ». Nous l'avons chanté tout à l'heure, cette cantique d'engagement. Mais j'étais un peu perturbé quand même. J'ai dit: moi, je vais m'installer et on m'invite, il faut nous inviter tous à nous lever et partir. Quelqu'un même m'a dit sur une boutade: allez, Châtelain, va vite t'installer. C'était en contradiction avec le message de cette conférence. Mais quelqu'un m'a dit, pour me rassurer, parce que j'étais perturbé quand même, et j'ai dit ça, téléphoné à une sœur, et puis elle m'a dit: mais il faut bien qu'il y en ait qui soient installés pour soutenir ceux qui partent. Ça m'a fait du bien. Quelles sont nos priorités dans nos projets, dans notre confort? C'est notre confort qui passe ou celui des autres? Notre situation actuelle est officielle et des plus confortables avec Dieu pour appui. On est choisi par lui. On est béni par lui, par Dieu. On est sauvé gratuitement, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais seulement de passage. Il y a plein de raisons pour rester centré sur Dieu et nous ouvrir aux besoins des autres, sans nous accrocher à nos biens matériels. J'admets que ce n'est pas plus facile. La déclaration de Lausanne dit ceci: pour les pays en voie de développement, nous vivons dans l'abondance. Acceptons comme un devoir de vivre plus simplement pour contribuer plus généreusement à l'évangélisation et à l'aide aux déshérités. Je parle encore du Tchad. Quand nous sommes rentrés définitivement avec ma femme, on avait pris la décision, on s'était dit: eh bien, on va essayer de vivre en Europe comme on a vécu au Tchad, dans la simplicité. La cuisinière au charbon de bois, les sols en béton. On a tenu un mois. Tout de suite après, c'est reparti dans... Ah, ça c'est quand même mieux, la moquette c'est quand même mieux, et puis la cuisinière c'est quand même mieux. Et voilà, bon, bien sûr, il faut s'adapter, Mais notre réflexion était quand même celle-ci. Ne pas gaspiller, ne pas avoir. Confond toujours plus. Pensez aux autres, à ceux qui n'ont pas le même minimum. Dans le chapitre 2, l'apôtre Pierre reprend le thème du chrétien exilé, étranger, où l'invitation à faire le bien est reprise à plusieurs reprises. Quand il le dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc il y a une raison à faire le bien, c'est que ce soit un témoignage pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Certaines traductions disent même pas une bonne conduite, mais ils traduisent une belle conduite ou de belles œuvres. Faire le bien de manière belle, c'est quand même beau ça, si on y met la manière. Lorsque nous sommes visités le Liban, on a, avec la Caisse de secours, on avait fait bien beaucoup, je pense que vous avez participé au sac des trousses d'hygiène. Et une délégation de la Caisse de secours est allée visiter le Liban et le travail se fait parmi les réfugiés. Et là, lors de la dernière journée, nous avons un débriefing avec un évêque de l'église orthodoxe et plusieurs autres personnes. Et lorsque je lui disais, il nous montrait toute la liste des dons qu'ils avaient reçus du monde entier. Et moi je leur disais, mais la Caisse de secours, ce que nous avons fait nous les pauvres Français, c'est quand même petit par rapport à tout ce qui a été fait. Cet évêque orthodoxe nous a dit, vous vous souvenez de la pauvre veuve, ce n'est pas seulement la quantité que vous faites qui est importante, c'est comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Et déjà de venir ici nous visiter, c'est la plus belle des récompenses pour nous. Faire le bien, bien le faire. Aller jusqu'au bout, accompagner. Pierre nous exhorte à nous abstenir des désirs de la chair pour avoir une conduite qui l'honore. C'est cela qui tue, qui fait la guerre à l'âme. Mais dans le désir de la chair, dans le langage courant, nous on pense tout de suite dans le domaine sexuel. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a la convoitise. Mais c'est lui donner un sens restrictif à ce mot, à ce que Pierre veut dire. Car il y a tous les désirs malsains, l'orgueil, l'autoritarisme, la surconsommation, on y revient. Quelqu'un ajoutait même, je vais le lire, même les heures excessives passées au lit. Qu'on peut faire autre chose que de passer le temps au lit. Ça, le Seigneur, il veut qu'on se consacre à lui. Il y a le passage de la lettre aux Philippiens qui exprime une conduite absente d'orgueil et que j'aimerais bien pouvoir mettre en pratique plus souvent. Chapitre 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans Ésaïe, chapitre 58, le peuple d'Israël pratique un jeûne sans valeur. Vous imaginez ? Ils se livrent à leurs penchants, ou même les mercenaires, donc les ouvriers, ils sont maltraités. La société est exploitée par les dirigeants. Bâtir une société, consommation qui se fait par l'exploitation des plus pauvres, se vérifie chaque jour. Au Tchad, à l'époque, il y avait le coton qui d'un seul coup a monté, les prix ont monté tellement haut que les autorités ont dit, ah ben maintenant, personne ne fait de culture pour eux, pas de jardin, tout doit être planté en coton parce que ça rapporte. Imagine la démesure, alors que ces gens n'avaient besoin des cultures vivrières pour vivre, interdit. Quand l'argent prend le pouvoir. Toute la Bible nous montre ce que faire le bien veut dire. Jésus a résumé toute la loi dans les deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est la partie de la louange qu'on a eue. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pierre offre quelques nuances supplémentaires dans le verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères. Alors dans aimer, ça, y a, tout est compris dedans. Hein. Craignez Dieu, honorez le roi. C'est un ensemble de notre vie de tous les jours. L'action sociale qui vise à répondre au dysfonctionnement qui se produit au sein d'une société, ça affecte les plus fragiles, les premières victimes, notamment ceux qui vivent dans la pauvreté. Il y aurait tant à faire, tant de décalage avec ce que nous vivons autour de nous. Vous savez combien coûte une heure de vol d'un Mirage qui va bombarder la Syrie? 25 000 euros l'heure ou 40 000 euros un Rafale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Une honte, mais je suis sûr qu'un jour, nous allons payer ce que nous faisons. La manière de faire de l'action sociale est de montrer que personne n'est exclu. Et ça fait partie des belles œuvres que nous sommes appelés à accomplir. Avoir une bonne conduite, une belle conduite à laquelle nous sommes appelés, doit se faire parmi notre entourage, parmi les nations. Les chrétiens sont au milieu du monde. Et c'est là que nous sommes appelés à faire le bien. Ce sera en fait faire la preuve que l'Église, avec un grand E, est au milieu de la société et que le bien que nous ferons débordera au-delà des limites de l'Église et que les gens des nations en bénéficieront. Je me souviens d'un homme d'affaires au Tchad qui me disait, vu la corruption et tout ce qui sortait autour de lui, et il me disait, et l'Église ne fait rien. Imaginez que cet homme qui n'allait même pas à l'Église, le dernier recours, il pensait pour vaincre la corruption, l'Église, nous. Faire le bien, dans le titre de Pierre, nous donne quelques exemples où nous devons faire le bien, comment nous devons le faire, à qui nous devons le faire, pas seulement ceux qui nous font du bien, mais les serviteurs à faire le bien envers leur maître non-croyant, ils devaient avoir un témoignage qui les interpelle. Les chrétiennes à faire de même envers leur mari non-croyant. C'est donc une attitude de tous les jours qui doit être en accord avec le Seigneur. Le verset 12, c'était un peu mon verset de base pour mes réunions missionnaires. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et c'est la même pensée que le Seigneur a exprimée dans Matthieu, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que le monde voit les bonnes œuvres que vous faites? Votre bonne attitude, est-ce que le monde peut s'interpeller? Il a quelque chose de plus que moi parce qu'il est différent. On raconte l'histoire d'un chrétien qui était parti à l'armée. Alors, en rentrant, son père lui dit, alors, ça s'est bien passé à l'armée, t'as tenu le coup? Ah oui, il n'y a personne là sujet des chrétiens. Voilà, il a se démarquer. Au contraire, les hommes. L'homme doit voir que nous connaissons un Dieu vivant et vrai, et que nous aimons, et que parce que nous sommes conscients de ce privilège, ça doit se voir. Un soutien authentique des pauvres peut être un témoignage puissant rendu au Dieu de la Bible, un Dieu de justice et de compassion. Ça doit se voir. Au IVe siècle, on raconte l'histoire de l'empereur Julien l'Apostat qui a voulu rétablir le paganisme. Mais il a dû confesser sa difficulté en raison du fait que les chrétiens faisaient le bien. Et ça, celui-là l'arrachait. L'aveu suivant, il a dit, nous païens, alors je vais le lire, avons oublié ce que la religion chrétienne a principalement revendiqué, à savoir la générosité désintéressée envers l'étranger, l'inlassable sollicitude pour une sépulture, pour les défunts, et le sérieux de la vie morale. Oui, les hommes doivent nous voir, le monde doit nous voir dans notre vie morale. Puis d'ajouter, c'est une honte pour nous païens que parmi les juifs, personne ne mendie et que les Galiléens impies, donc en l'occurrence les chrétiens, nourrissent non seulement leurs pauvres, mais aussi les nôtres. Il est déstabilisé par cette mise en pratique de l'amour du Christ autour de lui. Faire le bien dans une perspective biblique est quelque chose centré sur Dieu, motivé par le désir que lui seul soit glorifié. Dans le texte, il n'est pas précisé quel est le jour où Dieu visitera ce peuple. Hein, il nous a dit, ayez une bonne conduite, que les païens remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. On ne sait pas le moment où Dieu va intervenir. On peut imaginer que c'est le jour où les non-croyants seront gagnés à la fois par la belle conduite des chrétiens, peut-être. S'engager dans une action chrétienne dans un monde en détresse, c'est entrer dans le plan de Dieu. Comme tous ceux qui s'engagent dans une action sociale, nous devons réaliser le bien de l'homme. Mais nous devons viser quelque chose de plus. Faire connaître Dieu et son amour. Et cela en vue de l'éternité. Et c'est toute la différence avec une ONG. Même si elles font bien le boulot, si elles le font d'une façon remarquable, avec des moyens, ça s'arrête là. Et nous avons une étape de plus à franchir. Pourquoi nous le faisons? Comme cet évêque au Liban nous disait, parce que vous êtes venus. C'est comment vous êtes venus, comment vous nous aidez, et de nous visiter, de prendre souci de nous. Ça, de la valeur pour nous. Ça veut dire que vous avez de l'amour. J'aimerais lire dans 2 Corinthiens ce que moi j'appellerais la première caisse de secours. 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Discerner l'engagement de ces Macédoniens, pauvres, ils n'ont rien, une pauvreté profonde, dit l'apôtre, mais ils ont voulu participer aux chrétiens de Jérusalem. Et le secret, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Voilà. Première partie de la louange ce matin, c'était ça, l'engagement. De donner sa vie à Christ, se donner à lui, et c'est après les fruits viendront. Se donner eux-mêmes. Dans le verset 12, il est question de calomnie. Hein. Ne craignez pas la calomnie. Je pense que tout chrétien qui a un jour ou l'autre, peut-être tous d'entre nous, a été la risée de son entourage. Mais le motif de la calomnie est valable, hein, parce qu'il dérange. Mais nous devons y répondre par des actes irréprochables pour confondre les accusateurs qui seront obligés de s'incliner devant le roi des rois le jour où Dieu les visitera. Oui, Dieu visitera chacun. Mais de quelle visite s'agit-il? De grâce? Encore maintenant? Ou de jugement? Lorsqu'il sera trop tard? Quand l'appel de ce matin n'est pas passé? On l'a refusé? On n'a pas voulu y répondre parce qu'on est trop occupé dans son confort? On laisse passer l'invitation de Jésus à venir à lui, à donner notre vie à lui, à nous engager, à accepter ce qu'il a fait à la croix pour nous. L'éternité nous est assurée. Alors, en reconnaissance, engageons-nous. Faisons ce que nous pouvons faire autour de nous avant que ce soit que Dieu visite ce peuple par le jugement. Nous sommes encore dans le temps de la grâce où le Seigneur désire s'approcher de chacun de nous, de renouveler en nous cette vocation que nous avons de faire le bien et de bien le faire. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Alors profitons-en pour nous mettre au service des autres. Bien sûr, on n'est pas forcément obligé de partir en terre de mission. Nous l'avons fait, Sophie l'a fait, mais comme je l'ai dit, il faut être là pour l'entourer, pour supporter, parce que n'ayez crainte, quand on part en mission, ce n'est pas toujours des moments faciles que nous vivons. Il y a l'opposition, nous sommes en terrain ennemi, et il nous faut être fort, il faut être solide. Et là, s'il n'y a pas l'arrière qui intercède, qui prie, alors on est en danger. Je rappelle l'histoire d'un frère qui avait été missionnaire longtemps, de nombreuses années. Il est revenu dans son église, presque incognito, on ne l'avait pas reconnu. Il rentre dans l'église et il s'assoit au fond, comme ça. Puis en fait, après, il y a le culte qui s'est déroulé comme d'habitude. Il y a eu le moment de prière. Oh, il y en a même un qui a prié. Nous te prions pour notre frère. Il ne savait pas qu'il était dans la salle. Nous te prions pour notre frère qui est là-bas. Bon, on va dire au Laos. Nous te prions pour lui, fais-le du bien. Amen. Alors, après la prière, ce frère s'est levé. Et il leur a dit, vous savez, pendant des années, dans ma terre de mission, j'ai galéré. J'ai eu des soucis de santé, de l'opposition, j'ai eu de la souffrance, j'ai été incompris, j'ai été méprisé. Et je disais à Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant je suis là où tu m'as appelé. J'obéis, je suis à la place où tu m'as appelé. Mais pourquoi c'est si dur? Ce matin, j'ai eu la réponse. Si c'est comme ça que vous avez prié pour moi pendant ces années, alors c'était normal. Il faut s'investir dans la prière, dans le combat, soutenir les gens qui sont loin. Mais vous n'êtes pas bien, n'êtes pas tout seul. Je suis sûr que Sophie est bien entourée, alors continuez à le faire. Notre environnement doit être attiré, non pas par l'éloquence de nos paroles, mais par le rayonnement de notre conduite. Que le Seigneur nous aide tous à l'honorer dans nos projets, dans nos ambitions, mais surtout que nous laissions guider par lui pour faire le bien autour de nous. Alors pour conclure, j'aimerais citer ce texte de Michée 6, verset 8, qui est aussi un modèle de base pour tout chrétien. Quand les jeunes me demandent qu'est-ce que je dois faire, comment je dois, qu'est-ce que le Dieu Seigneur attend de moi, alors je leur donne ce verset. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice autour de toi, que tu aimes la miséricorde, pratique l'amour autour de toi, mais surtout que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est à la portée de nous tous. Que le Seigneur vous accompagne pour réaliser ce beau programme, qu'il vous accompagne dans l'accompagnement de Sophie, l'entourer, et que le Seigneur vous aide aussi à être fidèle là où vous êtes, pour que le Seigneur puisse en retour bénir votre témoignage et que beaucoup puissent et le désir de s'approcher de Dieu parce qu'ils vous auront vu rayonnant et avec plein d'amour pour lui. Amen.